Bonsoir à tous. Merci d'être venus, de nous avoir rejoints ce soir la station Ozone de la librairie Mola. Je voudrais remercier donc Denis Mola qui fidèlement nous accueille donc chaque année à l'occasion donc du concours Citoyenneté européenne. Et nous en sommes cette année à la 16e édition. Et c'est vrai que depuis le début, on a toujours été accueillis, les auteurs ont toujours été accueillis ici. Donc merci à M. Mola et merci aux libraires qui nous accompagnent. Je voudrais remercier aussi Mylène Contival des éditions Chandaigne qui a passé la journée avec nous. Merci pour votre présence. Et puis merci à nos deux auteurs. Hein. Alors je ne sais pas par qui je compte, à la droite, c'est Dick Rabage donc, qui a quitté Marrakech. Et puis Valerio Romao qui a... Rive de Lisbonne, et qui ont accepté tous les deux l'invitation conjointe du Conseil départemental. Je voudrais saluer la présence de la conseillère départementale Clara Azevedo, qui suit aussi fidèlement ce concours. Et donc, ils sont venus donc, à l'invitation conjointe du Conseil départemental et de l'association France Liberté Gironde. Dans le cadre, donc, si vous voulez, ces rencontres se passent tout le temps dans le cadre de la Semaine nationale d'éducation contre le racisme et de lutte contre les discriminations. Et je voudrais saluer Monsieur le consul du Portugal, le remercier de sa présence, et puis Ahmed Serrage, qui connaît bien aussi la lutte contre les discriminations, directeur du boulevard des Potes, Manuel Diaz, un certain nombre d'amis militants on travaille tous, je pense, dans la même direction et pour essayer de défendre nos valeurs. Donc merci à tous d'être présents. Et en fait, ce concours citoyenneté européenne, la citoyenneté européenne, c'est qu'un prétexte pour parler des valeurs qui nous réunissent, à savoir la paix, la démocratie, de vivre dans le respect de l'autre, d'aller vers l'autre, d'essayer d'apprendre à connaître l'autre. Et c'est vrai que la littérature, c'est quand même un moyen formidable, un moyen magique, les mots, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à se respecter. Donc merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter peut-être rapidement, Cédric Rédic Rabage, qui arrive de Marrakech. Il enseigne à l'Institut français de Marrakech. Il a déjà publié plusieurs romans. Alors ce soir, là, ici, donc... J'ai vu qu'il y avait donc « Nos parents nous blessent avant de mourir »,« L'école des sables », les deux romans sont là. Il y en a eu d'autres, comme « Inch'Allah », il y a eu « Le suicidaire en sursis » et puis « Le lutteur ». Je pourrais présenter rapidement, mais tout à l'heure on va le faire beaucoup plus longuement, Cédric Rabage comme un peu l'ambassadeur de la cause féminine, car dans ses romans, rend hommage vraiment aux luttes des femmes hein, pour essayer de briser le poids des traditions, le poids de la famille, et puis... la tyrannie des hommes, hein, en gros, quoi. C'est un petit peu ça avec l'histoire d'Abiba, on y reviendra. Et puis, à ma gauche, Valerio Romao, qui, lui, il est né en France, mais il est parti au Portugal. Il a regagné le Portugal à l'âge de 10 ans, d'où sa belle connaissance de la langue, de notre langue. Mais il écrit en portugais, hein, et il s'exprime très bien en français. Sinon les élèves y trouveraient à redire. Donc c'est d'abord un poète, un philosophe, hein, qui est très proche, qui est très amoureux, on va dire, de la philosophie des philosophes allemands. Et c'est un homme de théâtre qui est en train de traduire Michel Houellebecq, c'est ça, hein, qui a beaucoup de travail dans cette traduction, et puis qui a traduit Virginia Woolf, Samuel Beckett. D'ailleurs, on voit cette influence dans ses romans. Il a écrit une trilogie qui s'appelle Paternité ratée. C'est le premier roman, donc c'est un recueil de nouvelles de la famille, mais le premier roman de cette trilogie s'appelle Autisme. Et donc, c'est un livre qui a eu un retentissement important au Portugal. Et j'espère qu'en France, qui a été traduit et qui est publié aux éditions Chandaigne. C'est un livre qui vous bouleverse, tant par la radicalité du sujet. Autisme, c'est un petit peu un titre qui claque un petit peu comme un diagnostic sans appel, hein, autisme. Et l'écriture, coup de poing. Alors, vous avez remarqué de cette année, nos deux auteurs, ce sont des hommes. Alors, pourquoi le Maroc? Parce que le Conseil départemental fait des accords de coopération avec le Maroc. Et pourquoi le Portugal? Ça, c'est plus un choix de France Liberté Gironde, parce que pour la première année de l'édition du concours, on avait eu une auteure portugaise, Alice Vieira, qui était journaliste, chroniqueuse. Et c'est vrai qu'elle avait eu beaucoup de succès dans les collèges parce qu'elle avait expliqué un petit peu, elle avait été victime de la dictature à cause de ses éditoriaux, et elle expliquait un petit peu aux élèves, aux jeunes collégiens, qu'est-ce que ça pouvait être, une dictature, la prison, le manque de liberté. Et elle avait mené ces entretiens avec beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme et de chaleur. Donc, et puis aussi, pourquoi le Portugal? Parce que moi, je trouve que c'est un pays, on en parlait tout à l'heure avec Mylène Contival, dont on ne parle jamais trop assez. On en parle du point de vue touristique, on en parle du point de vue de ses atouts, mais il s'y passe des choses au niveau politique, il s'y passe des choses au niveau de la culture, de la littérature. Alors ici à Bordeaux, il faut dire qu'on a un petit peu été privilégié. Il y a eu l'action de Manuel Diaz avec Susan Mendes. Et puis on a eu aussi la chance d'avoir la présidente de Carrefour des littératures avec Sylviane Sambord et son mari, malheureusement regretté, Claude Rouquet, qui avait donc monté les éditions L'Escampette. Et grâce à lui, on a pu faire connaissance de tous les grands auteurs, de tous les poètes portugais. Je pense à Camões, Pessoa. Enfin bon, je ne vais pas tous les citer. Mais c'est vrai, en voyant Ahmed, je me rappelle d'un après-midi qu'on avait passé au boulevard des Postes. Alors, Mario Cesarini. Mmh. C'était en mars 2000. J'ai retrouvé les photos et tout, mars 2000. Et on avait passé un après-midi délicieux parce que c'est quelqu'un de, malgré son âge à l'époque, très avancé. Je pense qu'il avait déjà 90 ans. Et vraiment, un monsieur très facétieux, plein de fantaisie, c'était vraiment un après-midi formidable. Donc, grâce à Sylviane Sambord et son Carrefour des littératures, on a été beaucoup sensibilisés à la richesse de cette littérature portugaise. Et on a la chance d'avoir donc Valério Romão, qui représente le renouveau de cette littérature portugaise. Et merci encore pour ta présence, Valério. Voilà, en gros, si vous voulez, rapidement pour la présentation de nos deux auteurs. Et je pense que tous les deux, ils ont un point commun, puisqu'ils parlent à la fois, c'est vrai, de la famille, et ils le disent devant les collégiens, c'est qu'ils n'écrivent pas pour nous divertir, au sens un peu pascalien du terme, quoi. Ils écrivent pour nous déranger, pour nous bousculer, pour dénoncer un peu les errements de notre monde. Donc, ce sont tous les deux des témoins de notre monde actuel, et leur écriture sert un peu pour nous bousculer, nous réveiller un peu de notre torpeur. Donc voilà, pour une présentation rapide, je vais peut-être commencer par donner la parole à Cédric Rabage. Moi, j'avoue que je n'ai lu qu'un roman, c'est-à-dire celui-ci, là, les parents nous blessent avant de mourir. C'est un portrait du Maroc contemporain à travers l'histoire d'une femme, d'une grand-mère, Habiba. Et on la voit comme une véritable pionnière qui a osé donc briser tous les tabous et qui a décidé un jour de partir, de laisser enfant et mari et de partir pour la liberté. Son roman, c'est en fait une quête de la liberté. Et je voudrais lui dire si cette Habiba, elle existe vraiment ou si c'est le portrait de sa grand-mère ou si il a inventé l'histoire.
Bonsoir. Habiba. Je la prononce à la marocaine parce que le H, ça se prononce Ha. Donc Habiba, qui est une grand-mère dans le roman, a réellement existé. Et c'est ce qu'il m'a raconté qui a créé au moins un déclic pour l'écriture. Parce que moi, je fonctionne par déclic. Je peux rester 4-5 ans sans penser à l'écriture. Mais dès qu'il y a quelque chose qui bouge en moi, donc je me lance. Je me lance sans penser aux conséquences. Et alors, Habiba, c'est une dame qui m'a raconté une histoire un peu bizarre. Elle m'a raconté qu'il a été marié par force et que 7 jours après la naissance de son premier bébé, il l'a laissé parce que, comme vous le savez, le 7e jour, c'est toujours une journée de fête après la naissance au Maroc, ce qu'on appelle Sebouh. Donc, on égorge un mot de temps et puis on appelle à la prière dans l'oreille de... Ce sont des traditions dans l'oreille du bébé. Et puis, on prononce le nom pour que tout le monde puisse connaître le nouveau-né dans le quartier, dans la famille. Et donc, elle, en plein préparatif, elle a laissé tout et elle est partie. Et elle a pris le premier car qui sort de la gare routière, sans savoir où ce car se dirige. Donc... Et elle s'est trouvée dans une ville qui s'appelle Safi. Et Safi, c'est une ville marocaine qui est un petit peu abandonnée, etc. C'est pas comme lorsqu'elle était encore fille. Elle est partie avec son frère à Essaouira, qui est une belle ville. Et donc, elle raconte l'enchantement que cette ville a exercé sur elle. Habiba a existé. Et donc, c'est son père qui l'a mariée malgré elle, avec force, et cela, c'est une blessure. C'est une blessure qu'on ne peut pas oublier, et c'est une blessure qui ne peut pas s'effacer sans laisser de cicatrices. Et c'est ce qu'il transmet à ses filles. Moi, je connais Habiba à travers une autre femme qui n'a pas pu réussir son mariage. Et je me suis rendu compte que dans cette famille, aucune femme n'a réussi son premier mariage, voire jamais. Donc, qu'elle se marie 2-3 fois, et après ça m'interpelle. Donc je commence à chercher l'origine. Pour moi, l'origine, et c'est la narratrice qui cherche cette origine. C'est la quatrième génération. Donc à travers l'histoire de Habiba, j'ai essayé de soulever cette question de la cause féminine au Maroc et cette situation dans laquelle elle est encore maintenue. Donc il n'y a pas de modifications, pas mal de progrès dans la situation de la femme, mais on n'est pas encore arrivé à la considérer comme l'égale de l'homme.
Oui, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, au fil de la lecture et au fil de la progression de votre récit sur Habiba, on peut penser que les filles d'Habiba vont s'émanciper et vont trouver la liberté. Mais en fait, ces filles d'Habiba qui peuvent aller à l'université, mais finalement, elles vont quand même se fiancer, se marier avec, par exemple, une va se marier avec un footballeur, et on s'aperçoit que finalement, le footballeur l'empêche d'adhérer à un groupe de militants pour défendre des libertés, l'empêche de progresser. Donc, c'est un constat. Voilà. Ce livre, c'est un constat d'échec finalement sur le souhait d'émancipation.
Effectivement, parce que ce footballeur-là reste un homme marocain, c'est-à-dire il est imprégné par une tradition qui met de telle sorte que la femme se situe à un niveau inférieur par rapport à l'homme. Et donc, lui, il a fait la connaissance, il a vu qu'une belle fille corporellement belle, mais elle n'a pas cherché à connaître ses idées, ses pensées. Donc, il est tombé amoureux d'elle parce qu'elle a un très beau corps, elle est belle, elle s'habille élégamment à la mode, etc. Mais le choc va se produire par la suite en découvrant que c'est une femme qui se croit l'égale de l'homme. Parce qu'elle a fait des études universitaires et à un moment donné, elle a intégré certains groupes de militants à la fac, etc. Et à la fin, il l'abandonne. Il l'abandonne en pleine crise parce qu'elle n'arrive pas à intégrer au fond de lui cette situation que Habiba cherche, plutôt la fille de Habiba cherche à lui imposer.
C'est-à-dire, c'est le poids de la religion, le poids de la tradition.
Oui, la religion, maintenant, on exerce. Il y a la religion, bien sûr, mais il y a la culture qui est plus grande que la religion. Dans la religion, par exemple, quand un père meurt et laisse une fille et un garçon, le fils prend deux parts et la fille une seule part. Ça, c'est la religion, ça, c'est l'héritage. On ne peut pas. On a beau crier au Maroc. Le poids de la religion l'emporte sur tout. Donc, c'est impossible de bousculer ce socle-là. Pas seulement la religion, il y a pas mal de choses. Une femme, une fois mariée, c'est son mari qui participe au choix des sujets, qu'il s'habille selon sa conception de la femme, selon le profil qu'il imagine de la femme. Et puis, voilà, donc c'est dans ce cadre-là que la fille de Habiba se trouve. En discordance avec son mari.
Pourtant, elle avait eu un beau modèle, puisque Habiba, elle a osé marcher, on la voit marcher sur la marche verte, là, en 2000, c'était dans les années 2000, hein, c'est ça ?
Non, 1975.
D'accord, mais elle participe déjà, c'est son premier acte d'émancipation, elle participe à cette marche. Elle s'engage quand même, avec la peur de tomber sur son mari,
Mais c'est aussi pour fuir sa fille, parce qu'elle s'est réveillée un jour et elle a trouvé que les gens se précipitent pour aller s'inscrire dans les bureaux afin de participer à une marche qui est pour eux obscure. Parce que les Marocains ont participé à une marche qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas à quoi ils participaient. À un moment donné, rares ceux qui sont partis tout en sachant de quoi s'agit-il. Mais la plupart sont partis tout simplement parce qu'il y avait des promesses dans l'air. On va vous donner 10 maisons après le retour, etc. On va vous loger, on va vous donner un salaire, etc. Mais elle est partie tout simplement parce qu'à un moment donné, elle est sortie de l'hôtel. Elle a vu que le monde se précipite au bureau et c'est pour elle un moyen pour fuir la réalité dans laquelle elle a chuté. Et donc, voilà, et c'était un prétexte pour moi pour parler aussi de la marche verte, de cette marche verte qui a failli être un carnage, parce que les Espagnols, dans le temps, il y avait beaucoup de discussions à propos de cette marche. Est-ce qu'on tue, est-ce qu'on ne tue pas ? Et ils étaient armés jusqu'aux dents en attendant l'arrivée des masses humaines. Et l'ordre est tombé à la dernière minute pour les épargner. Donc il y avait des gens qui étaient sur la voie de la mort, qui ne savaient même pas sur quelle voie ils marchaient. C'est aussi Et puis en retournant, il y a la déception. C'est vrai que le Maroc a gagné sur le plan politique, mais il y a beaucoup de victimes de la marche verte.
Et comment votre livre, ce livre-là en l'occurrence, est perçu au Maroc par les critiques, par le public, par vos lecteurs? Je pense que vous avez vos lecteurs déjà. Depuis.
Oui, bien sûr. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs au Maroc. Parce que mon avant-dernier roman, plutôt, m'a engendré beaucoup de problèmes. Parce que je parle d'un problème dans le lutteur, d'un problème de racisme au Maroc. Un racisme qui est sous-jacent entre les Noirs et les Blancs, entre les berbérophones et les arabophones.
Oui, vous en parlez beaucoup aux collégiens de ce racisme sous-jacent. Oui,
effectivement. Donc, il y a beaucoup de qualificatifs du Noir, mais aucun pour le Blanc. Il y a un dictionnaire, si vous voulez, un dictionnaire de mots pour qualifier le Noir, mais pas pour qualifier le Blanc. Et ça, plutôt, ce n'est pas la polémique qui l'a suscité, mais c'était parce que dans la polémique, il y a deux points de vue opposés. C'est un seul point qui l'a suscité, c'est qu'on me taxait de quelqu'un qui cherchait à semer la zizanie dans un pays qui est en paix. Donc, pour le moment, c'est pas le moment pour soulever ce genre de questions. Il faut les laisser pour après. Pour le moment, il faut se concentrer sur autre chose, sur la démocratie, ceci, cela, mais il ne faut pas soulever quelques questions qui pourrait être source de dérangement ou de bouleversement dans le pays, etc. Par contre, en France, il a été bien reçu. Il a été bien reçu. Et c'est le cas de ce roman. Il n'a pas trop dérangé. Et il y a tout simplement un réalisateur qui m'a appelé et m'a demandé si je suis capable de le mettre en scénario. Et c'est,
de refaire et on, une écriture.
Voilà. Et c'est en passant au cinéma que peut-être il va produire un petit retentissement, parce que le cinéma, surtout au Maroc, il est un peu vu, mm-hmm. plus que le livre. Donc le livre,
donc vous êtes regresse. Vous êtes plus lu ici en France qu'au Maroc.
Pour le lutteur, non. Pour le lutteur, c'est peut-être la même chose. Pour celui-là, je crois que je suis plus lu en France qu'au Maroc. Ouais.
C'est le paradoxe, quoi, de la. Et dans le livre donc, qui se passe à Marrakech, enfin, le point de départ, oui. Vous écrivez « Marrakech est une ville dont on ne peut pas faire le deuil. On peut s'en éloigner un temps, mais on ne peut la quitter. »
C'est ce que c'est vous moi. Avez...
C'est vous.
Flaubert a dit « Madame Bovary, c'est moi. » Moi, je dis « Marrakech, c'est moi. »
C'est l'identité Marrakech.
Marrakech, c'est moi. Tout simplement parce que c'est une question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Je ne peux pas vivre loin de Marrakech. Non, parce que c'est une belle ville. Une ville où on peut avoir tout ce qu'on veut, mais c'est tout simplement parce que c'est la ville qui m'a construit, donc je ne peux pas la laisser. Elle a besoin de moi en tant qu'acteur culturel dans la ville et en tant qu'écrivain. Donc c'est une ingratitude de laisser ma ville et de partir à faire profiter de moi un autre pays. Donc pour moi, ma ville, c'est Marrakech. Et c'est elle qui m'a construit. Je suis produit de l'école publique. Chez nous, il n'y avait pas de livres. Et donc, tout le savoir que j'ai pu acquérir, c'est à travers les profs, l'école, la faculté, etc. Je suis un pur produit de Marrakech. Et c'est de l'ingratitude de la laisser au moment où il a besoin de moi. Voilà pourquoi Marrakech.
C'est bien, c'est une belle reconnaissance vis-à-vis de sa ville. Ouais. Et c'est vrai que je remarque que quand vous êtes dans les collèges, quand vous racontez aux jeunes... quand vous racontez que vous alliez écouter, que vous gardiez l'argent que votre papa vous donnait pour prendre le petit déjeuner ou pour manger, vous le gardiez pour payer le compteur public. Et c'est vrai que vous avez gardé cette façon, cet art de raconter les histoires, cette façon de dire le récit, de raconter l'histoire, de susciter l'attente de votre auditoire, mais aussi de votre lecteur. Quoi, hein. Et donc là, je vois les élèves sont très, très attentifs.
Mon quartier, c'est un quartier plutôt... marginalisée pour très longtemps parce que elle s'est soulevée à un moment donné et il y a une manifestation grandiose qui est sortie de mon quartier d'enfance pour réclamer pour plutôt contre la cherté de la vie. Et il y avait carrément un discours du roi Hassan II prononcé à la télé dans lequel elle parlait de ce quartier précisément. Donc c'est un quartier qui est connu comme étant un quartier maudit partout dans le royaume. Et dans mon enfance, on n'avait pas de télé, etc. Et donc, c'était un quartier de second degré. Ça veut dire qu'il y avait la grande place, la place de Jemaa el-Fna, que peut-être vous connaissez. C'est une place où il y a beaucoup de plutôt charmeurs de serpents, beaucoup de dresseurs de singes, de magiciens, mais aussi des comptoirs publics. Et mon quartier d'enfance, c'est un quartier un peu à la marge, dans lequel se produisent les hlaïqi, c'est-à-dire ceux qui animent ces petits cercles de deuxième degré, ceux qui ne sont pas encore acceptés à la place de Jemaa el-Fna. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent. Elles s'entraînent dans mon quartier pour pouvoir créer une petite place à la place de Jemaa el-Fna. Et donc, ils ne peuvent pas aller directement à la place sans passer par mon quartier. Mais il y a certaines personnes qui se plaisent dans ce quartier, qui restent pour toujours, parce qu'ils n'ont jamais pu forger une place à la place de Jemaa el-Fna. Et parmi ces gens-là, il y a un compteur public. Et alors, comme mon frère était scientifique, mon frère aîné, et il nous orientait tous vers les matières scientifiques, on négligeait complètement le littéraire. Pour nous, dans la maison, la littérature, en général, toutes les matières littéraires, c'était une perte de temps. On ne reconnaissait qu'une seule intelligence, l'intelligence mathématique, pour très longtemps. Et alors, il nous imposait ceci, mais heureusement, dans mon quartier, quand je rentre, je laisse mon cartable dans un coin, parce qu'on était plus libre que les enfants d'aujourd'hui, et je sortais jusqu'à la tombée de la nuit écouter un compteur public, parce que l'école finissait dans le temps à 4 heures, c'est-à-dire à 16 heures. Et mon père, avant de sortir le matin, il me laissait une pièce d'argent pour prendre un beignet et un verre de thé. Et moi, je ne mangeais pas ce beignet et ce verre de thé, je gardais la pièce pour la donner au compteur public. Et ce compteur public savait automatiquement que je serais parmi les présents. Et il me laissait une place devant lui parce qu'il savait aussi que je vais lui donner la pièce. Et donc, c'est garanti. Donc, il gagne déjà une pièce avant de venir. Et il me gardait la place devant lui, je lui donnais la pièce. Et puis, j'absorbais ses paroles. C'était quelqu'un qui arrivait à me faire voyager. J'ai visité des pays mystérieux qui n'ont jamais existé, mais qui n'ont existé que dans l'imaginaire de ce compteur public. Et ça a alimenté beaucoup mon imagination. Et ce compteur public raconte les histoires d'une manière très linéaire. Donc il n'y a pas des prouesses de narratives, etc. Et il y avait une chose, c'est que le compteur public commence à raconter avant la quatrième prière. Et il y a la quatrième prière. Et parmi les présents, il y a toujours des prieurs. Et alors le prieur le quitte et vont à la mosquée pour prier et revenir. Et lui, il fait une pause. À chaque fois, il y a une pause différente. Et c'est de là où j'ai appris ce que c'est que la pause narrative. C'est-à-dire, elle laisse le cavalier courageux avant d'entrer à la forêt obscure et puis raconte. Il raconte toujours la même histoire et quand il retourne, il reprend, et le cavalier qui va rentrer à la et la rentrée, etc. Donc c'était incroyable ce don qu'elle avait, ce compteur public, pas seulement celui-ci, mais tous les compteurs publics de Marrakech sont des gens doués. Et j'avais le projet d'écrire toutes les histoires racontées dans ces cercles-là, sauf que le travail et la contrainte familiale et sociale aussi m'en empêchent.
Le compteur public, il avait un don, mais je crois que notre ami Cédric a aussi un don. Moi, je n'ai pas de pièce, donc comme ça, il va s'arrêter, Cédric. Et je vais me tourner vers notre ami portugais, Valério Romão. Et moi, j'ai découvert donc votre talent d'écrivain et d'écriture hein, avec le livre de nouvelles de la famille et puis aussi avec ce livre un peu coup de poing, autisme. Alors, c'est vrai que dans ce récit, bon, je ne vais pas le dévoiler entièrement, mais c'est pour résumer, si vous voulez, c'est le récit d'une famille qui va se battre au quotidien pour essayer de sauver son fils hein, atteint d'autisme. Et c'est vrai que le lecteur, il ne sort pas indemne de cette lecture parce que c'est un livre coup de poing. et plein de désespoir, plein d'énergie, plein de d'énergie destructrice aussi. Hein. On a envie de rentrer dans le livre, d'essayer d'aider les parents à se battre contre l'impuissance de la médecine, contre souvent le manque d'écoute, contre l'incommunicabilité qui s'installe entre le père et la mère. Et puis finalement, cette maladie, c'est un chaos, ça fait tout exploser. Quoi. On voit que la famille explose, la paternité, le couple, on se retrouve en pleine solitude. Donc c'est vrai qu'il y a une question qui s'impose. Est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est un roman autobiographique ? On est obligé de vous la poser, Valério.
Bon, bonsoir, merci d'être ici. Je peux répondre à cette question d'une manière assez facile. Le roman a été suscité par une expérience autobiographique. J'ai un fils autiste, il a maintenant 15 ans, il s'appelle Guilherme. Et pendant que je l'éduquais, que je découvrais avec sa mère ce qu'était l'autisme, parce qu'on pense toujours, il y a des grosses méconceptions de l'autisme, on pense encore toujours au Rain Man, au savant muet de l'autisme, et ce n'est pas tout à fait comme ça. Il y a beaucoup de formes d'autisme, et il y a tant de savants dans le groupe d'autistes comme il y a de savants dans le groupe des personnes, disons-nous, normales. Et alors que je me débattais avec ce problème qui a occupé 95% de ma vie et de mon temps, je n'ai pas eu le temps pour écrire, ou la volonté, ou l'énergie pour l'écrire. On était dans une espèce de second travail, le travail d'être non seulement des bons parents, mais des bons médecins ou des bons infirmiers. Quand on s'est séparés, bien sûr que j'ai eu du temps pour penser à ce qu'il y avait, à ce que j'avais fait, à ce qu'elle avait fait, et pourquoi on a décidé de faire comme ça. Et j'ai commencé à écrire ce que je pensais qu'était une nouvelle, qui s'est transformée au premier chapitre de Autisme. Et ça a été une découverte pour moi d'écrire quelque chose de semi-autobiographique. Alors, je me souciais de d'écrire non un roman, mais une espèce de journal.
Un journal de bord, quoi.
Ouais. Je n'étais pas confortable avec cette idée. Et alors, j'envoyais des morceaux du roman à un ami qui me réassurait, non, c'est pas un journal, c'est...
C'est un témoignage.
C'est un témoignage, mais c'est surtout un roman. Et comme à peu près 50% est vrai et 50% n'est pas vrai, je m'ai senti vraiment protégé quand le livre a apparu, parce que seulement quelqu'un qui me connaît vraiment bien sait ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et c'est comme ça que j'ai eu le courage pour...
Disons que la fiction vous a permis de raconter ce drame. C'est ça. Et vous pouvez nous... Le roman Autisme se termine sur une lettre au père. Et c'est vrai que quand on lit cette lettre, c'est un peu une descente un peu en abîme, quoi. On pense à Kafka, forcément. Et quelle est la signification de cette lettre comme conclusion du récit ?
Bon, la première version du roman avait un dernier chapitre très différent. Et mon ami Antonio, qui était en train de lire le livre, m'a dit, bon, ça ne fonctionne pas. Le troisième chapitre ne fonctionne pas. La fin ne fonctionne pas. Tu dois le refaire. Et sans y penser vraiment ou objectivement, ça m'a paru une sortie élégante de laisser la possibilité, que je ne vais pas dire parce que...
Oui, c'est dommage de dévoiler l'ensemble du livre, quoi.
De laisser une possibilité ouverte au lecteur pour une interprétation qui ne soit pas la mienne. c'est pourquoi la lettre au père apparaît. On a aussi la scène des urgences qui est déjà une métaphore et une allusion au château de Kafka.
Et justement, pardon, mais dans le chapitre urgence, il y a une lettre qui manque, le E qui manque à urgence. Alors on peut penser à une faute, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas une faute d'impression de l'éditeur. Qu'est-ce que ça veut dire, cette lettre qui manque?
C'est Portugal, c'est quand on arrive à un hôpital, d'accord, il y a toujours quelque chose qui manque.
Ah, d'accord, c'est uniquement le Portugal. Ouais. Il n'y a pas Portugal, de signification,
France,
mais c'est universel.
Je parle du Portugal.
Quoi. D'accord,
ouais.
Oui, il n'y a pas une signification.
Non, plus. C'est seulement...
C'est le E qui a la lettre à sauter, quoi. C'est
l'état des choses quotidiennes.
D'accord. Et est-ce que justement cette salle, cette urgence, cette salle d'attente dans laquelle se retrouvent le père, la mère, les grands-parents et tout, est-ce que ce n'est pas un petit peu le symbole de notre société, pas forcément de la société portugaise, hein, mais de nos sociétés occidentales où il y a cette incommunicabilité entre les êtres, personne ne se regarde, personne ne se parle, où il y a une espèce de sentiment d'échec, de désespérance, d'absence d'espoir total, quoi.
Oui, et surtout il y a une bureaucratie et une... et un manque de courage de faire quelque chose qui n'est pas socialement prévu. Alors, ils arrivent à cette salle et ils essayent d'entrer dans les urgences pour parler avec quelqu'un, un médecin, un infirmier, et ils n'arrivent pas parce qu'ils sonnent, mais personne ne répond. Et elle dit à lui, elle lui dit, mais va voir si tu rencontres quelqu'un. Et quand il voit des médecins et des infirmiers sortir par une sortie, il n'a pas le courage de les confronter et de leur demander mais qu'est-ce qui se passe avec mon fils, qu'est-ce que vous faites, comment est-il, parce que je ne sais rien.
Parce qu'il n'a pas forcément le vocabulaire, il n'a pas les codes de tout cet univers aussi.
Et il ne sait, il n'a pas le courage d'être. Je pense à la parole en portugais inconvénient.
Il est incommodé.
Il n'a pas le courage de dire gênant. Gênant.
Il a peur. Il a peur d'être.
Il a socialement peur d'être gênant. Et c'est un peu, non pas un diagnostic, mais un trait de notre société hyper éduquée,
codifiée, parce que dans cet univers
hyper bureaucratique, s'il y a des règles, je vais les respecter absolument. C'est un peu ça, et un peu un symbole de l'autisme. La salle est là, mais il y a une porte, et il y a un silence qui est vraiment gênant.
Et ce silence, il veut dire quoi? Ça signifie quoi pour vous, le silence? Parce que le garçon est muet, il ne parle pas, donc c'est le silence. Les personnes ne communiquent entre... Enfin, c'est quoi? C'est notre société? C'est la peinture de notre société actuelle? C'est son fonctionnement? C'est...
Un peu, je pense qu'on parle beaucoup, mais on ne communique pas beaucoup. La quantité de paroles n'est pas équivalente à la quantité de messages qu'on peut faire transmettre ou écouter. Le silence du garçon, je pense qu'il a une signification de... Quand on a un silence ou un mur blanc, on peut projeter à peu près quelque chose.
Sagesse du garçon, finalement.
C'est l'angoisse des parents qui ne savent jamais ce que cet enfant pense, et s'il a mal à la tête ou mal à l'estomac, parce qu'il est silencieux et il projette, les parents, ses angoisses sur ce mur blanc, sur ce silence.
Donc le silence, c'est un vrai personnage du roman. Et ça reste une énigme.
Oui.
Tant pour l'enfant que pour le personnel hospitalier, que pour les parents.
C'est un peu comme la porte fermée de Hitchcock, qui disait je ne suis pas un monstre, je montre une porte qui est fermée. Et chacun va projeter
ce qu'on veut.
C'est la
liberté de faire ce qu'on veut.
Et c'est pire parce que un monstre, peut-être une araignée ou un loup, quelque chose comme ça, peut-être.
C'est la porte ouverte à tous les possibles.
C'est ça.
D'accord. Bon, c'est une réponse à nos interrogations de lecteurs. Et c'est vrai que bon, ça concerne donc autisme, mais dans l'autre recueil de nouvelles hein, de la famille, on retrouve encore ce même questionnement par rapport au rapport entre les membres d'une même famille, enfin avec en plus des problèmes de cannibalisme, de choses un peu terrifiantes et extraordinaires. Alors la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi vous donnez toujours les mêmes, c'est Martha, Ruggiero, le chien Nero, c'est tout le temps les mêmes prénoms, les mêmes noms aux personnages de vos récits. Pourquoi ? C'est une question de facilité ?
Une question de paresse. Comme j'ai une mémoire terrible, si je commence à changer les noms et à inventer des noms, et après je ne me rappelle plus si
donc c'est simplement une commodité, quoi. Oui. La femme, c'est Martha, l'homme, c'est Ruggiero, les gens. D'accord.
C'est seulement ça.
Et dans le recueil de la famille, il y a une très belle nouvelle. C'est une des rares nouvelles où le lecteur reprend un peu son souffle, on va dire. Hein. C'est l'amour d'un petit-fils pour sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et là, on dit enfin, ouf, on souffle un peu parce que c'est très doux. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour. Alors que dans les autres nouvelles, c'est...
Je me suis trompé.
D'accord, je pense. On se dit, c'est pas lui qui a écrit ça, c'est pas Romao qui a écrit ça. Et vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites actuellement, quels sont vos projets d'écriture ou vos projets de... Parce que là, bon, il y a eu cette trilogie Paternité ratée, donc il y a ce premier ouvrage Autisme. Quels sont les deux autres qui ne sont pas encore traduits en français, me disait votre éditrice, mais qui vont l'être et qui vont sortir. Donc vous pouvez nous parler des deux autres titres qui appartiennent à cette trilogie Paternité ratée et nous dire ensuite si vous allez continuer sur le registre de la famille ou sur autre chose.
Seulement reculer à peine deux minutes.
Oui, on recule.
Dans le recueil
De la famille.
Mais la version portugaise, essayant de ne pas avoir des noms différents en tous les nouvelles, toujours les mêmes noms, on s'est trompé au dernier. On a mis des noms différents. D'accord. Moi et mon éditeur. Alors,
donc ça a été vraiment. C'est pas une règle.
Non, mais c'était vraiment nécessaire.
D'accord.
Je m'imagine si on avait pensé à mettre des noms différents à toutes les nouvelles. Bon, maintenant, je n'ai pas tellement de projets d'écriture. J'ai des projets de lecture, de traduction, de choses.
Oui, vous traduisez Houellebecq, c'est ça,
le
dernier ?
Sérotonine. J'ai des projets de m'alimenter un peu avant de pouvoir dire quelque chose d'intéressant pour que...
Et vous alimenter, c'est-à-dire c'est lire vous lisez de la littérature portugaise, étrangère aussi. Quels sont les auteurs que vous lisez ?
Maintenant, je suis en train de lire de la poésie portugaise et obligatoirement Houellebecq parce qu'il me prend assez de temps. Je n'ai pas plus de concentration pour lire beaucoup de choses, mais je suis en train de lire un auteur anglais qui écrit sur une épidémie de danse à Strasbourg en 1500 quelque chose 18. Beaucoup de personnes ont mouru
sont morts dans
cette épidémie de danse qui a commencé. Personne ne le sait, une Frau qui a commencé à danser. Et ça a duré tout le mois de juillet et un peu du mois d'août, plus de 30 ou 40 morts. Et c'est une chose extraordinaire que personne ne sait expliquer encore.
Et vous pouvez nous dire quand vont sortir les deux derniers
en septembre,
donc, qui viennent d'être traduits, donc les titres, le sujet un petit peu. Donc le prochain, c'est le titre.
C'est Les eaux de Joanne. C'est une mère qui est obsédée, une femme qui est obsédée par avoir un enfant et qui essaye de l'avoir pendant des années et des années et qui finalement arrive à être enceinte. Et...
Mais là, ce n'est pas la paternité ratée, c'est la maternité ratée. Un peu.
Oui.
Hein, voilà. Et le dernier de la trilogie
Le dernier de la trilogie est sur
Alzheimer.
Alzheimer. C'est une mère qui est obsédée par le contrôle de sa fille, qui ne laisse pas avoir d'argent de poche, mais la fille a 42 ans, qui ne la laisse pas avoir un portable. Et quand la mère est atteinte d'Alzheimer, il y a une inversion de rôle. Le pouvoir retombe sur la fille. Et c'est un peu une manière d'examiner comment quelqu'un qui n'a pas été éduqué pour grandir, pour être une adulte, va utiliser ce pouvoir, si elle se va venger de cette mère ou si elle va être un peu plus humaine que sa mère a été.
Bon, ben on attendra avec impatience la suite de la trilogie. Je remercie nos deux auteurs et puis vive la littérature.
Je la fais toujours après un verre de vin.